Bonjour à tous et bon réveil, il est 6h59, bienvenue dans les matins de France Culture, un mot du programme de l'émission ce lundi 25 mai à 8h20, troisième volet de la série d'émissions consacrée à l'Europe dans les matins et aujourd'hui une question qui peut paraître toute simple mais à laquelle très peu de personnes savent répondre. Que fait le Parlement européen ? Réponse tout à l'heure avec nos invités. À 7h15, l'Europe toujours dans les enjeux internationaux. Et à 7h25, carte blanche à Julie Coudry. Voilà pour le programme, il est 7h. France Culture, 7h et le grand retour d'Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Et avant l'arrivée des invités des matins, nous observerons la campagne des européennes depuis Prague avec Pierre Perrichou. Nous nous pencherons sur les dernières déclarations de la Corée du Nord qui affirme avoir procédé à un essai nucléaire souterrain. À l'occasion du forum des économies majeures qui se tient à Paris, nous écouterons Brice Lalonde évoquer la difficile lutte contre le réchauffement climatique. Retour sur Cannes, bien sûr, et sur la palme d'or décernée au ruban blanc de Michael Haneke. Enfin, dossier sur la scientologie. Elle est poursuivie en tant que personne morale pour escroquerie. Le mois dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné le tir de fusée balistique effectué par la Corée du Nord. Pyongyang avait alors promis de riposter, c'est chose faite. La Corée du Nord affirme ce matin qu'elle a mené avec succès un essai nucléaire souterrain. Une déclaration qui met en émoi la communauté internationale. Nous retrouvons à Séoul Thomas Olivier, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer cet essai nucléaire ? Et si oui, comment doit-on l'interpréter ?
Alors écoutez, ça n'a toujours pas été confirmé officiellement par les États-Unis et le département d'État américain vient de déclarer qu'il cherchait toujours à établir la réalité de ce test. Mais on peut quand même dire qu'il y a de très fortes chances qu'il ait en fait bel et bien eu lieu. C'est Séoul qui a d'abord lancé l'alarme ce matin en annonçant avoir détecté un tremblement de terre artificiel d'une magnitude de 4,5 degrés quand même sur l'échelle de Richter, à quelques kilomètres à peine du lieu où la Corée du Nord avait déjà effectué son premier essai nucléaire. Et puis ensuite, les Nord-Coréens ont affirmé qu'ils avaient procédé à un essai et qu'il est réussi, comme vous l'avez dit. Donc, on ne peut pas encore être catégorique, mais c'est quand même très probable. Alors ensuite, vous posez la question, elle est légitime, des conséquences que peut avoir ce test. Alors là, la réponse est beaucoup plus complexe. En gros, il y a deux possibilités. Soit cette nouvelle provocation va pousser Washington à discuter directement avec la Corée du Nord, c'est ce qu'espère Pyongyang, soit c'est le contraire qui va se passer et on va assister à une mise à l'écart encore plus radicale de la Corée du Nord de la part de la communauté internationale. Mais dans les deux cas, il est encore trop tôt aujourd'hui, ce matin, pour se prononcer.
Merci Thomas Olivier. Nous suivrons ce dossier depuis le Japon dans le journal de 8h. L'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan renforcent leur coopération. Lors d'un sommet à Téhéran hier, les trois pays se sont engagés à lutter ensemble contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a également profité de cette réunion pour dénoncer la présence des forces étrangères dans la région. On a appris hier soir la mort d'un soldat français en Afghanistan. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Ce caporal-chef de 31 ans a été retrouvé mortellement blessé par son arme de service. Elle a jusqu'à présent surtout suscité l'indifférence. La campagne des élections européennes est officiellement lancée en France aujourd'hui. En République tchèque, pays qui préside actuellement l'Union, elle a commencé dès mercredi dernier. Et l'on assiste à une profusion de campagnes négatives, de quoi désespérer les europhiles, Pierre Perrichou.
L'Europe ou la République tchèque, je m'en fiche complètement. C'est par ce slogan de campagne, en gros, sur l'affiche du Parti démocratique civique, actuellement au pouvoir et qui est aussi le parti du président Václav Klaus eurosceptique, que l'ODS tente de dénigrer les sociodémocrates en tête des intentions de vote. Lesquels sociodémocrates répliquent par une autre campagne tout aussi négative sur le thème « Plus jamais le retour de l'ODS ». On le voit, s'il y a débat électoral européen, à Prague, ils ne volent pas haut. Les petites formations, en revanche, comme les écologistes, soutenus par l'ancien président Václav Havel, ou le Parti démocrate européen, avancent de solides arguments pour une Europe politique forte et une intégration réussie. Mais il n'est pas facile de convaincre. Les 33 listes candidates en sont bien conscientes. L'Union européenne est ici un concept flou pour une opinion publique indifférente ou presque. Pire, ces élections sont en fait une répétition nationale des élections législatives anticipées annoncées à l'automne, où l'opposition social-démocrate a de grandes chances de victoire. En 2004, pour les premières élections européennes du pays, un mois après son entrée dans l'Union, la participation avait été de 28%. Un léger mieux serait déjà une victoire.
Et à 7h30, gros plan sur la République tchèque avec le reportage de Véronique Rebérotte. Pour suivre la campagne européenne, rendez-vous également sur le site franceculture.com. C'est un sujet à la fois européen et français. Les producteurs de lait organisent ce qu'ils appellent une journée blanche. Toujours mobilisés contre la baisse du prix du lait, ils ont commencé dès l'aube à bloquer des laiteries et des plateformes de collecte à l'appel de la FNSEA. Pendant ce temps, à Bruxelles, la France et l'Allemagne vont plaider la cause des agriculteurs et demander que soit élaboré au plus vite un rapport d'étape sur le lait dans l'Union européenne. Les précisions de Quentin Dickinson à Bruxelles.
Les ministres comme les éleveurs ne peuvent que constater l'effondrement d'un tiers du prix payé au litre aux producteurs en moins d'un an, sans d'ailleurs que le consommateur s'aperçoive de la moindre diminution du prix au détail. Mis en cause, les intermédiaires et la grande distribution, aux pratiques moyennement transparentes, invoquent le recul de la demande à l'exportation due à la crise économique mondiale, ainsi que la moindre demande de beurre due aux préoccupations diététiques répandues dans les pays développés. Alors, les décisions que les ministres peuvent envisager sont plutôt de nature à soulager ponctuellement la situation. Perception avancée de 6 mois des subventions, prêts individuels à taux zéro, défiscalisation du gazole par exemple. La Commission européenne, elle, a d'ores et déjà rétabli les aides à l'exportation et au stockage, ainsi qu'une hausse du prix de rachat des excédents.
Un nouveau cas de grippe A est confirmé en France. Un enfant ayant récemment séjourné au Canada a été hospitalisé en Haute-Garonne. C'est le 17e cas de grippe A diagnostiqué dans l'Hexagone. On en parle beaucoup, mais les avancées sont lentes. La lutte contre le changement climatique fait l'objet d'une réunion internationale aujourd'hui à Paris. 17 pays, parmi les plus gros émetteurs de CO2, vont tenter de trouver une position commune à 6 mois de la conférence de Copenhague. Brice Lalonde est l'ambassadeur français des négociations sur le climat. Il est bien conscient de l'ampleur de la tâche, mais il se veut optimiste. Écoutez-le.
Si tous les pays industriels classiques se mettent d'accord pour diminuer de 80% leurs émissions en 2050, à ce moment-là, les Chinois seront sous pression. Ils seront obligés de faire quelque chose. La Chine, c'est toujours colossal. Donc, c'est à la fois le premier pollueur, mais c'est aussi le premier pays pour l'énergie solaire. C'est le premier pour l'énergie éolienne, etc. Donc, ils font beaucoup d'efforts. Le problème vient plutôt de pays comme l'Inde et autres qui, eux, pour l'instant, sont très réticents. Les Indiens disent, mais écoutez, excusez-nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pauvres. Nos émissions, si on les compare par habitant, si vous voulez, eh bien, c'est très, très peu. Évidemment, si vous additionnez le 1,5 milliard Indiens, ça fait beaucoup. Mais vraiment, si on veut être équitable, ce n'est pas à nous qu'il faut demander de faire les efforts les premiers.
Brice Lalonde, joint par Anne-Laure Barral.
France Culture, bientôt 7h07, la suite du journal Aurélie Kiefer.
Rachida Dati reconnaît que le suicide de Jacques Bouille, le maire de Saint-Cyprien, pose le problème des conditions de détention provisoire. C'est le 50e suicide en prison depuis le début de l'année, constate la ministre de la Justice, qui assure avoir mis en place de nombreuses mesures pour prévenir ce phénomène et qui stigmatise l'inaction de ses prédécesseurs. Jacques Bouille était incarcéré depuis décembre pour une affaire de malversation. L'église de Scientologie est une nouvelle fois sur la sellette. 7 de ses responsables sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la pharmacie. Le procès s'ouvre cet après-midi devant la 12e chambre du TGI de Paris. L'église de Scientologie a déjà été condamnée, mais aussi plusieurs fois relaxée. Ce procès est donc très ouvert. 2 victimes sur les 5 qui avaient porté plainte en 1998 devraient y participer. Pour France Culture, la porte-parole de l'église de Scientologie, Danielle Guinor, a décidé d'évoquer l'ambiance qui précise selon elle, à ce procès.
Depuis 2 semaines, le procès se passe dans les médias. On a vu sortir du chapeau un livre publié comme ça de façon inattendue, un ex-membre qui est dans tous les journaux, alors qu'il avait porté plainte il y a quelques années, donc il y a eu un non-lieu sur cette affaire. Nous, on voudrait avoir un procès équitable, c'est tout ce qu'on demande. On est assez confiants, mais le procès il s'est passé déjà dans les médias et c'est tout à fait incorrect. On estime que c'est un procès en hérésie. L'affaire elle-même, cette affaire-là, le procureur avait requis un non-lieu en 2006. Et d'un seul coup, ça repart avec un nouveau juge d'instruction qui instruit le dossier à charge. L'ordonnance de renvoi est complètement à charge, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Vous voyez, il y a un climat qui est entretenu par des associations style ADFI, même la Mivilude, qui sont financées par les fonds publics à 95% et qui ne devraient pas être partie prenante, qui devraient rester neutres et s'occuper de soi-disant victimes. Mais leur fonds de commerce, c'est de récupérer des personnes mécontentes, d'empêcher les médiations et de les amener au tribunal.
Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est que ce procès vise avant tout la personne morale. C'est la seconde fois seulement qu'une plainte de ce type est déposée contre l'Église de la Scientologie. Écoutez les explications d'Olivier Maurice, avocat des deux plaignantes.
Je crois que ce qui est important et novateur en l'espèce, c'est que le tribunal correctionnel va examiner la responsabilité de la structure de la Scientologie, de la personne morale. Et donc le tribunal correctionnel va s'intéresser de très près aux méthodes, aux techniques de la Scientologie. C'est un système qui consiste a recherché de faire le maximum d'argent en mettant en dépendance un certain nombre de personnes qui sont vulnérables pour capter la fortune de ces personnes qui deviennent des adeptes. L'enjeu est important parce que la défense de la scientologie est déjà au point dans la mesure où ils indiquent que s'il y a eu des dérives personnelles, eh bien seules les personnes qui ont mis en œuvre ces dérives pourraient être éventuellement condamnées, mais en aucune manière l'organisation et la structure.
Cette plainte contre la personne morale ne doit rien au hasard. Ce que vise Olivier Maurice, c'est à terme la dissolution de l'Église de Scientologie. Mais il peut y avoir des peines moindres, depuis la mise sous surveillance jusqu'à l'interdiction éventuellement temporaire, voire partielle, de certaines activités. Le procès doit durer jusqu'au 17 juin. Un palmarès sombre qui souligne les failles de notre société. Michael Haneke a décroché la Palme d'Or pour le Ruban Blanc. Jacques Audiard a été désigné Grand Prix du jury pour Un Prophète. Ce sont donc les grands gagnants du 62e Festival de Cannes. Des auteurs exigeants, récompensés lors d'une cérémonie qui a laissé hier soir une grande place à l'émotion. Le reportage à Cannes de Florence Leroy.
La Palme d'Or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke.
Michael Haneke, l'auteur entre autres de Funny Games, Caché ou La Pianiste, un habitué de Cannes, obtient enfin à 67 ans la Palme d'Or, à la tête d'un palmarès cinéphilique incontestablement et dont l'annonce a pourtant réservé de vrais moments d'émotion. Haneke lui-même, réputé austère, et sa longue étreinte avec Isabelle Huppert, qu'il avait fait tourner dans La Pianiste, et puis quelques mots pour sa femme.
Le bonheur, c'est une chose rare, mais maintenant, je peux te dire, Suzy, c'est un moment dans ma vie où je suis vraiment heureux, toi aussi, je pense.
Avant même cette Palme d'Or, quelques larmes avaient coulé sur le visage de Sabine Azéma, notamment compagne et actrice fétiche d'Alain René, lorsqu'un prix exceptionnel a été remis au réalisateur d'Hiroshima Mon Amour, Nuit et Brouillard, où on connaît la chanson, et qui présentait ici, à 86 ans, un film léger et surréaliste, Les Herbes Folles.
Un film, ça ne se fait pas tout seul. Je veux dire que on est entouré de beaucoup d'amis, de beaucoup d'aides, et on dit qu'à Cannes, tous les caprices sont permis. Je voudrais demander dans ce cas à tous les membres de l'équipe des Herbes Folles de se lever et de lever la main pour qu'on les repère bien.
Et puis il y a eu Charlotte Gainsbourg, prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Antichrist de Lars von Trier, exceptionnelle de grâce dans un rôle pourtant très dur, avec des scènes de sexe et de violence crue, rôle d'une femme qui verse dans la folie, dans le film le plus controversé de la sélection.
Je vais aussi embrasser ma mère, qui a été ma confidente durant ce tournage. Et pour finir, je pense à mon père. Et j'espère qu'il aurait été fier de moi. Fier et très choqué, j'espère.
Bravo avait juste avant glissé Isabelle Huppert à Charlotte Gainsbourg, un peu comme un passage de relais entre actrices n'ayant pas peur de prendre des risques.
Et la ministre de la Culture, Christine Albanel, salue un palmarès équilibré et intelligent. Le temps se dégrade, la pluie arrive par l'ouest avec localement des orages. Les Hautes-Pyrénées sont placées en vigilance orange pour risque de crue. Et à l'est, il va faire lourd aujourd'hui. Les températures varient ce matin entre 12 degrés à Cherbourg et 20 à Lyon. Il fera cet après-midi 19 degrés à Brest, 29 à Paris, 32 à Marseille. 7h13, Ali Badou.
Merci Aurélie Kiefer. Et à la une de vos journaux ce matin, Libération, Haneke, l'enfance du mal. Le cinéaste autrichien remporte donc la Palme d'Or avec un film fresque, analyse Libération, qui remonte aux origines du fascisme sur fond d'obscurantisme religieux. Le Figaro, procès, la scientologie risque la dissolution. Élections européennes dans l'humanité, le front de gauche des économistes. Dans les échos, la faillite de General Motors semble désormais inéluctable. Et puis la Tribune, patron d'entreprises publiques, enquête sur des nominations très politiques. La Croix s'intéresse au changement climatique. La lutte s'organise à 6 mois de la conférence de Copenhague. Même les pays réticents à prendre des mesures contre le réchauffement du climat avancent des propositions. Et puis je vous signale l'arrivée dans les kiosques d'un numéro hors série d'alternatives économiques consacré à l'Europe, état des lieux, des institutions, de l'économie, société, frontières, où en est la construction européenne. Le dossier est passionnant et une question à la une des matins de France Culture, mais que fait le Parlement de Strasbourg? Mieux vaut tard que jamais, il est encore temps d'essayer de comprendre ce que font les eurodéputés, comment s'organise le travail sur les textes au sein de cette drôle d'assemblée. comment se construisent les accords dans un Parlement où il n'y a pas de majorité claire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail de pédagogie reste à faire pour savoir tout simplement ce qui est en jeu dans le scrutin du 7 juin prochain. Et dès 8h20, deux invités au micro dès matin, Renaud Dehousse, le directeur du Centre d'études européennes de Sciences Po, et le journaliste Jean Quatremer de Libération, l'un des rares Jean Quatremer à suivre au quotidien la vie de la Commission et du Parlement à Bruxelles. C'est aussi le rédacteur du meilleur blog sur les questions européennes, Coulisses de Bruxelles. Allez faire un petit tour sur Internet, on indiquera le lien évidemment sur le site dès matin. Rendez-vous donc tout à l'heure avec Renaud Dehousse et Jean Quatremer. Il est 7h15 sur France Culture, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Ali.
Et le début aujourd'hui d'une semaine spéciale consacrée à l'Europe dans les enjeux. Plus 27, une Europe élargie est-elle viable ? Ce matin Thierry, le thème du fédéralisme.
Voilà, avec la question posée, l'Europe fédéraliste est-elle une idée trop petite pour une très grande Europe, donc 27 et plus ? Et rendez-vous demain avec l'ambassadeur de Croatie, après-demain avec l'ambassadeur de Macédoine, et puis un représentant turc, donc ce sont les trois pays retenus comme candidats, et puis une réflexion générale plus économique, donc vendredi. Alors c'est une organisation prototypique, on peut le dire. Daniel Collard, vous êtes avec nous de Besançon-Franche-Comté, vous êtes professeur honoraire à l'université de Besançon-Franche-Comté. C'est une organisation prototypique, on peut le dire, intergouvernementale, confédérale, fédérale. Avant les bouleversements internationaux, les élargissements avaient été prudents, progressifs, mesurés, comme celui d'ailleurs après, en 95, au profit de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche, et puis 10 d'un coup en 2004, dont celui est au profit de Chypre, qui n'est pas souverain sur 38% de son territoire, ce qui fait qu'un pays candidat, la Turquie, occupe un pays membre. C'est assez saugrenu comme situation. Et puis en 2007, Roumanie et Bulgarie. Alors on rappelle à propos du fédéralisme le mot attribué à tort ou à raison. Il faudra lui poser la question à Jean-Pierre Chevènement au moment de l'effondrement du mur de Berlin. Le mur s'effondre, un mort, Jacques Delors, justement, le fédéralisme. Alors, quel regard portez-vous sur cette situation actuelle et la notion même de fédéralisme pour un regroupement d'États qu'on appelle l'Union européenne ?
Oui, je crois que le problème central, c'est de donner une gouvernance à l'Union européenne. On a eu pour le moment une gouvernance économique, depuis le traité de Rome jusqu'au traité de Maastricht. Maintenant, il faut faire un saut qualitatif, c'est-à-dire passer de l'Europe économique à l'Europe politique. Alors, se pose évidemment la question des institutions. N'oublions jamais, je crois, trois choses. D'abord, l'Europe, c'est une union d'États. Le critère de l'État, c'est la souveraineté. Donc il y a 27 États avec 27 souverainetés. Deuxièmement, la construction européenne n'a pas de précédent dans l'histoire. On ne peut pas s'inspirer d'un modèle préétabli. Troisièmement, sans volonté politique, l'Europe ne peut pas avancer. Donc le fédéralisme est une idée à la fois ancienne et neuve parce que c'est un mouvement qui permet d'associer l'unité dans la diversité. La devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Ce qui ne fonctionne plus, probablement, c'est d'abord le fédéralisme en fonction du nombre des États. Sur le plan économique, à 6, c'est facile de faire du fédéralisme. Sur le plan politique, c'est tout autre chose. Alors, il faut repenser le concept de fédéralisme. Jacques Delors, précisément, avait inventé le concept de fédération d'État-nation.
Ce qui est une sorte d'oxymoron.
Mort, absolument. Parce que s'il y a
c'est le mariage de la carpe et du lapin.
Absolument, mais on peut quand même donner un contenu nouveau au fédéralisme. Le fédéralisme, c'est le conflit entre les souverainistes et puis ceux qui veulent de la supranationalité, c'est-à-dire de l'intégration politique.
En quoi est-ce que, Daniel Collard, les élargissements quand même assez démesurés, il faut bien le dire, à 27, aujourd'hui et bientôt d'autres pays des Balkans, et même le Parlement européen, il y a 3 ans environ, on avait exclu l'Ukraine, est-ce que ces élargissements ont mis à mal quand même l'approfondissement nécessaire des institutions ?
Oui, je crois qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que ce qu'on gagne en extension sur le plan géographique, on le perd en cohésion interne sur le plan de l'approfondissement. Il y a une contradiction totale entre l'élargissement de l'Europe constante sans frontières et puis l'approfondissement nécessaire pour avoir de la cohésion. Mais cela dépend de la conception qu'on se fait de l'Europe. Et il y a quand même 3 grandes conceptions qui sont en compétition pour le moment. Où on fait une Europe puissance globale, militaire, monétaire, économique, politique, et là il faut des frontières. Après on pense aux institutions. Ou bien une deuxième conception, on fait une conception Europe-marché, espace économique libre, et là, les institutions sont moins importantes. Et puis, il y a une troisième conception qui est l'Europe par la norme, par la règle, et on a une grande Suisse ou une grande Suède. Il faut choisir.
Alors, vous vous rappelez d'ailleurs, je pense que c'était en 2003, un grand fédéraliste devant l'éternel, Valéry Giscard d'Estaing, à propos de l'adhésion, ou plutôt, oui, de l'adhésion possible de la Turquie, avait dit, dans ce cas-là, n'appelons plus ça l'Europe si elle entre dedans.
Moi, je partage tout à fait ça. Il faut des frontières. Actuellement, on a des frontières au nord, on en a à l'ouest, on en a au sud, mais on n'en a pas du côté de l'est. Et si on prend la Turquie, il faut prendre d'autres, l'Ukraine, etc.
Biélorussie, Moldavie, etc.
Oui, je crois qu'il faut savoir se fixer des limites et rien n'interdit d'avoir une Europe des cercles concentriques, par exemple, avec des partenariats privilégiés à la périphérie. Vers le sud, il y a l'Union pour la Méditerranée, ou vers l'est, avec la Russie, ou avec l'Ukraine, ou avec la Turquie. La Turquie a un traité d'association. On peut approfondir ce traité d'association.
Oui, depuis 63, d'ailleurs.
Absolument. Donc, on fait d'abord du commerce.
Et elle a une union douanière aussi.
On fait du commerce, effectivement. La Turquie, c'est quand même 80 millions d'habitants. Il y a un problème culturel, il y a un problème religieux, il y a un problème d'intégration d'un grand État comme ça dans l'Europe des 27. Et les petits États seraient plutôt favorables au fédéralisme, par définition, parce qu'ils ont peur des grands.
Mais en même temps, il y a toujours cette question récurrente, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, même dans une Europe à plusieurs vitesses ou à la carte, est-ce qu'il ne faudrait pas la constitution d'un noyau pilote, d'un noyau moteur? Et en même temps, c'est tout de suite, on taxe ce noyau
de
directoire.
Absolument, de directoire.
Alors, c'est aussi une impasse, mais une complication.
Oui, mais il faut un moteur. Dans la construction européenne, le moteur a toujours été le moteur franco-allemand. Ce sont deux grands États qui représentent quand même un tiers de la population de l'Union européenne. Et sans accord étroit entre la France et l'Allemagne, on ne voit pas très bien qui pourrait donner l'impulsion. Je rappellerai aussi en passant que l'Europe est un OPNI, c'est-à-dire un objet politique non identifié. C'est une formule très bonne de Jacques Delors, et que Kissinger en 1963 avait dit « Donnez-moi le numéro de téléphone de l'Europe ». Il n'y a pas de pouvoir politique, ou plus exactement le Conseil européen, c'est très insuffisant. Il faut une présidence stable. Alors là, c'est le traité de Lisbonne. Mais le traité de Lisbonne, il manque un État pour ratifier, c'est l'Irlande. On est à 26 pour le moment.
Mais même s'il ratifie, est-ce que
Ce serait un peu mieux qu'avec le traité de Nice, dans lequel nous sommes maintenant enferrés.
Et qui avait d'ailleurs la particularité de mécontenter les souverainistes et les fédéralistes, ce qui était évidemment...
Ça prouve qu'il était...
Oui, c'est une performance.
Qui n'était pas très performant. Mais dans le traité constitutionnel, on a loupé le moment constitutionnel en 2004. Il y avait le mot fédéral qui a braqué beaucoup de monde. Mais le traité constitutionnel, c'était quand même un plus sur le plan qualitatif. On avançait. Le traité de Lisbonne reprend ce mini-traité, reprend en partie les idées constitutionnelles, plutôt les idées juridiques qui figuraient dans le traité constitutionnel, mais ça reste très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Mais il faut s'entendre sur la conception de l'Europe. Ou on fait une Europe puissance globale, ça c'est la conception franco-allemande, ou on fait une Europe marché, alors là il n'y a pas besoin d'institutions très fortes, et puis si c'est une Europe par la puissance, par la norme, l'Europe sort de l'histoire.
Est-ce que vous avez l'impression, pour terminer, que le fédéralisme appliqué à l'Europe doit être réétudié?
Ah oui,
comme notion, évidemment, et comme concept.
Le fédéralisme, c'est un mouvement, finalement. C'est un processus juridico-politique qui met en cause la souveraineté des États, c'est ça. Et on peut lui donner un contenu tout à fait novateur. Je crois que là-dessus, il y a des études qui ont été faites récemment, et on peut avoir une conception tout à fait autre que celle qui existait avec la méthode Monnet dans les années 50.
Voilà, c'est ce que disait d'ailleurs Giscard d'Estaing aussi. Il disait, n'appelons plus ça l'Europe dans ce cas-là, si la Turquie vient. Et il disait, en gros, on sort de l'épure ou de l'enveloppe des pères fondateurs.
Absolument, mais ce n'est pas normal. Il faut penser l'Europe dans le temps. le facteur temps est capital. En 50 ans, on a quand même beaucoup progressé. On est passé de 6 États à 27. Ce n'est pas fini. On a eu la paix, on a eu la prospérité. Donc le processus est en route. Il faut évidemment maintenant le consolider, l'approfondir et repenser certains concepts un petit peu dépassés.
Voilà, en tout cas, merci. Daniel Collard, je rappelle que vous êtes professeur honoraire à l'Université de Besançon-Franche-Comté. J'aurais dû dire aussi que vous êtes homme de droit, si j'ose dire, juriste. Et ça, c'est important, évidemment, dans l'approche de votre réflexion. Demain, nous allons accueillir donc l'ambassadeur de Croatie. Mercredi, l'ambassadeur de Macédoine. Un représentant donc turc jeudi. Et puis vendredi, une question posée. Une très grande Europe est-elle condamnée au seul libre-échange à l'anglo-saxonne? Voilà. Donc franceculture.com. Et puis il y a sur le site, non seulement des enjeux internationaux, mais de France Culture, donc énormément de, comment pourrait-on dire, de données, de livres, de liens, etc.
Sur l'antenne de France Culture également, Thierry, puisque dans Du grain à moudre à 18h30, Julie Clarini et Brice Couturier poseront cette question. Le Parlement européen doit-il et peut-il s'extraire d'une culture de compromis? Rendez-vous avec eux et avec vous demain, Thierry.
Voilà, donc avec la Croatie.
7h25 sur France Culture, carte blanche à Julie Coudry. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et ce matin, Internet, Big Brother et tiens, le personal branding.
Est-ce que vous savez ce que c'est le personal branding?
Absolument pas.
Eh bien, on va commencer par le